Info Week-end, Isabelle Pelletier.
Un individu qui se livrait à un trafic de vente d'alcool sur les réseaux sociaux interpellé et condamné à 8 mois de prison avec sursis après une enquête de la cellule cybercriminalité de la gendarmerie. L'atelier de maintenance automobile du lycée Jules Garnier a incendié hier midi. Le feu, rapidement circonscrit par les pompiers, ne s'est heureusement pas propagé aux 40 véhicules du hangar. Un renfort médical pour les habitants du sud du Mont-d'Or. Un médecin et une infirmière de la Sécurité civile nationale vont désormais assurer une permanence le week-end au centre médical de la Corniche. Le musée maritime dans la tourmente, le manque de fréquentation et le coup d'arrêt des subventions pourraient conduire à la fermeture de l'établissement dans les mois qui viennent. Et puis le sport, du football, c'est parti pour la deuxième journée de Ligue 1 avec un premier match PSG-Montpellier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Une enquête de la cellule cybercriminalité de la gendarmerie a permis l'interpellation d'un individu qui se livrait à un trafic de vente d'alcool issu de différents pillages. Dans un communiqué, le procureur de la République précise que dans le cadre de la procédure de comparution préalable de culpabilité, l'homme a été condamné pour recel de vol à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation de l'ensemble des sommes d'argent et des marchandises saisies. Michael Juneski.
C'est la cellule cybercriminalité de la gendarmerie nationale qui a repéré sur le réseau TikTok deux vidéos datées des 13 et 14 juillet dernier et qui affichaient des quantités importantes de bière. Des vidéos qui laissaient clairement supposer une provenance frauduleuse liée au pillage des commerces ou des sociétés de production, d'autant plus que la vente d'alcool était interdite sur le territoire. Les investigations ont permis d'identifier un homme âgé de 34 ans, gérant d'une activité de mécanique automobile. Il se livrait effectivement à la vente illégale de bière et de bouteilles d'alcool. Au cours de la seule journée du 10 août, 17 personne s'était présenté à son adresse pour y acheter des boissons alcoolisées. L'enquête a permis de découvrir qu'il écoulait entre 50 à 100 cartons de 24 bières par semaine. Plusieurs de ses clients ont été entendus par la gendarmerie et l'individu a été interpellé le 14 août. Lors de sa garde à vue, il a reconnu qu'il se livrait à ce trafic de vente d'alcool depuis le 10 juin 2024 en s'approvisionnant auprès de différentes personnes. Il se doutait de la provenance frauduleuse des marchandises, mais il a expliqué qu'il avait développé ce trafic pour remonter la pente après avoir perdu son activité du fait des émeutes. La perquisition a permis de saisir 570 $ australiens et 1 268 000 francs ainsi que des boissons alcoolisées. Le procureur de la République tient à souligner le travail d'enquête très minutieux mené par les officiers de police judiciaire de la cellule cybercriminalité et il rappelle que l'objectif avec la saisie et la confiscation des avoirs criminels est de frapper les délinquants au portefeuille.
Les locaux du lycée Jules Garnier, victime d'exactions. Hier vers midi, un véhicule a été incendié dans l'atelier de maintenance automobile des sections professionnelles. Fort heureusement, le feu ne s'est pas propagé aux 40 autres véhicules qui se trouvaient dans le hangar. L'incendie a en effet été rapidement maîtrisé grâce aux pompiers qui se trouvaient à proximité de l'établissement après avoir éteint un premier feu près du Quindou Beach. On écoute Michel Lehoulier, le proviseur du lycée Jules Garnier.
C'est un véhicule qui est sur un pont de garage et les composants électriques du pont ont commencé à fondre, les quatre luminaires au-dessus ont fondu, mais sinon ça s'est pas propagé aux autres véhicules et aux bâtiments. Les pompiers ont réussi à éteindre avant. Là, je vous dis, 40 véhicules pleins d'essence, si ça s'était propagé à d'autres véhicules, ça aurait pu être catastrophique, quoi, parce que là, il y avait un risque d'explosion énorme. La police scientifique fait ses analyses, les services de pompiers aussi, donc et on pense fortement que c'est criminel, puisque le feu n'est pas de nature électrique ni rien, ça a été mis dans une voiture qui sert de travaux pratiques. Une voiture dans un hangar, elle ne prend pas feu toute seule, quoi. Je mène une enquête, j'ai déjà interviewé 6 élèves, mais on a le signalement d'un individu. Donc on essaye, par rapport à la description physique et vestimentaire, de voir qui c'est et qui a été vu sortant de l'atelier en courant. Donc on pense que c'est l'auteur, en fait. En tant que chef d'établissement, notre crainte la plus forte, c'est que lors d'exactions, il y ait des blessés, voire des morts. Parce que là, aujourd'hui, ça aurait pu se terminer comme ça, quoi. Hein. Donc on a peur par rapport à ça.
Après la maîtrise de l'incendie, le proviseur a rapidement prévenu le vice-rectorat et la vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement, Isabelle Champmoreau, qui sont venus sur place faire un état des lieux et venir apporter leur soutien à l'établissement. Les communes de Point-d'Imier, Canala et Wailou visées par un arrêté d'interdiction de vente d'alcool à compter d'hier et jusqu'au 8 septembre. Un arrêté qui répond à des demandes formulées par les communes elles-mêmes, nourries du constat, je cite, de troubles à l'ordre public et faits de délinquance, des constats de gendarmerie. L'État entend ainsi prévenir la nouvelle survenue de troubles de même type qui seraient aggravés par une consommation abusive d'alcool. 23 cabinets de médecins libéraux ont été détruits ou brûlés depuis le début des exactions. Si la situation s'est apaisée au cours des dernières semaines, un cabinet a encore été récemment cambriolé. Et les médecins qui exercent dans les CMS de Brou sont encore régulièrement victimes d'agressions ou d'exactions. Un constat qui aggrave le manque d'attractivité constaté déjà avant le début des émeutes et qui conduit au départ annoncé d'ici la fin de l'année à une centaine de médecins, avec à la clé des spécialités qui viennent à manquer et une quasi-pénurie de médecins dans l'agglomération et dans certains quartiers de Nouméa. On écoute le président de l'Ordre des médecins, Bruno Calandreau.
Il est évident que les médecins ne vont pas se réinstaller dans le quartier où se situe leur cabinet qui a brûlé, ou pas tous, ou peu nombreux seront-ils. Hein, et puis les spécialistes, pour beaucoup, sont venus dans Nouméa, auront du mal à repartir vers la banlieue de Nouméa ou vers les communes autour de Nouméa. L'ophtalmologie, la dermatologie, la rhumatologie, la gastro-entérologie, qui est des spécialités déjà en difficulté, les choses ne sont pas améliorées. Et c'est sûr qu'on avait monté avec l'hôpital, la clinique, les centres de dialyse, une cellule d'attractivité pour voir comment on pouvait faire venir des médecins en Calédonie. Et pour le moment, je dirais que beaucoup de gens sont dans l'attentisme. Certains médecins ont décidé de partir ou partiront d'ici la fin de l'année. Et le problème, c'est que beaucoup de médecins qui avaient envisagé de signer des contrats reportent leur arrivée ou même l'annulent complètement, hein, puisqu'effectivement, ils ne savent pas comment la situation sera quand ils arriveront.
Un constat d'une pénurie de médecins spécialistes déjà dressé jeudi sur notre antenne par le docteur Mathieu Séry du CHT. Ces départs représentent un peu plus de 10% des 850 médecins présents sur le territoire en exercice ou à la retraite. Autre problème soulevé par le docteur Calandreau, la baisse du nombre de consultations médicales liées au transport mais aussi à la modification de l'aide médicale gratuite.
L'activité dans les cabinets médicaux a beaucoup diminué du fait en particulier des problèmes de transport. Et les patients viennent moins consulter parce que c'est compliqué pour eux de venir chez le médecin. Il y a aussi des choses qui sont importantes par rapport à l'aide médicale. Les patients ont tendance à ne plus venir consulter parce qu'ils ne savent pas très très bien si l'aide médicale continue à exister, si elle est arrêtée. Hein, et certains patients ne vont même pas renouveler leur carte d'aide médicale. D'une part, ils n'ont pas renouvelé leur carte, mais d'autre part, ils ne vont pas consulter. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez inquiétant pour des patients en longue maladie, dont on sait très bien que s'ils ne vont pas consulter, les risques d'aggravation sont présents.
Le président de l'Ordre des médecins, Bruno Calandreau, qui appelle donc les patients qui ont une maladie chronique à venir consulter pour éviter toute aggravation de leur pathologie. Un renfort précieux pour les habitants du Mont d'Orsud. L'espace santé de la Corniche accueille depuis hier un médecin et une infirmière de la Sécurité civile nationale. Ils vont assurer les permanences de consultation tous les week-ends, Sarah Mégery.
C'était un problème de plus pour les habitants du sud de la commune, l'absence de médecins le week-end. Une situation évidemment très inquiétante qui vient de trouver une solution grâce au dispositif mis en place par l'État et la province sud. Un médecin et une infirmière de la Sécurité civile sont arrivés hier matin au centre médical de la Corniche, accueilli sur place par le commissaire délégué en province sud, Grégory Lecru, et la présidente de la province sud, Sonia Bacquès. Un renfort d'autant plus bienvenu que la situation des patients est très compliquée depuis 3 mois, explique le docteur Delaunay qui gère le centre médical en semaine.
Il était très attendu par la population. Je pense qu'effectivement, il est très bienvenu. Il va combler une situation qui est vraiment inacceptable pour les Mondoriens, qui est cet isolement, y compris des structures de soins spécialisées, des hôpitaux, des structures d'urgence. Et donc, c'était très attendu par les gens.
C'est une situation, quand on parle de perte de chance, à laquelle vous êtes confronté tous les jours.
Oui, absolument, et c'est poignant, c'est quelque chose pour nous de terrible de travailler dans cette situation, de voir des patients à qui on demande de faire des examens ou qui ne veulent pas les réaliser parce qu'ils sont trop âgés, trop vieux, trop fatigués pour monter dans le bateau, qui sont pas assez malades pour prendre l'hélicoptère, donc on a des situations qui sont des entre-deux et on en a tous les jours beaucoup, et ça constitue vraiment une perte de chance pour ces gens parce qu'ils vont attendre et puis on ne sait pas ce qui va se passer pendant ce temps-là. C'est notre lot de tous les jours d'assister à ça un peu de façon un peu impuissante, et ça il n'y a que le rétablissement d'une circulation par la route qui pourrait ramener les choses à la normalité.
Les permanences de consultation non programmées à l'espace santé de la Corniche seront donc assurées dès ce week-end par le médecin principal Joachim, qui arrive de l'unité d'instruction et d'intervention numéro 1 de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir.
La France et ses représentants en Calédonie montent au créneau après la publication du communiqué des pseudo-experts internationaux présentés comme des rapporteurs spéciaux de l'ONU, Michael.
Oui, leur communiqué de presse contient des allégations graves qui sont factuellement inexactes et qui suscitent de nombreuses et sérieuses interrogations quant à leur fondement, a écrit le haut-commissaire dans un communiqué publié hier. De son côté, l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, explique que la France a été saisie par les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme sur la situation en Calédonie par voie écrite et qu'elle répondra dans les délais fixés conformément aux procédures qui régissent ces saisines, en particulier le principe du contradictoire. La France rappelle que les positions exprimées par les titulaires des procédures spéciales ne représentent pas celles du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ni celles du secrétariat des Nations Unies.
Nicolas Metzdorf annonce que les mouvements non indépendantistes ont commencé à travailler sur un projet de société commun et qu'ils tendent vers une organisation fédérale de la Nouvelle-Calédonie. Le député de la première circonscription était hier midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Interrogé sur la situation plus de trois mois après le déclenchement de l'insurrection, il estime que la situation n'est pas satisfaisante en matière d'ordre public et d'aide économique et sociale et demande solennellement à l'UNIPALICA de sortir du FNKS ou d'en exclure l'UC. Une interview de Nicolas Metzdorf qui sera rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez aussi la retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Et puis ce matin, à partir de 11h, nous vous proposons la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, l'analyse de la situation sur le terrain. Les consultants du club ont aussi analysé les décisions et prises de position des récents comités directeurs de l'Union calédonienne qui étaient réunis samedi dernier à la tribu de Boyenne à Vaud. Ils se sont interrogés sur le prochain congrès du FNKS qui doit se réunir le 31 août à Calagomène et aussi sur l'élection du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui interviendra le 29 août. Ils ont enfin évoqué les relations internationales avec le report de la mission du Forum du Pacifique et le communiqué très controversé des quatre pseudo-experts indépendants de l'ONU, un club politique disponible également en audio sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS trouvent qu'il n'est pas juste de payer plus cher l'électricité pour participer au sauvetage des Nercal. Et ils sont 11% à penser à l'inverse, qu'il est juste que les tarifs de l'électricité augmentent. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Le musée maritime dans la tourmente. La structure a rouvert ses portes le 12 juin dernier sous le coup de subventions publiques et privées, soit en suspens, soit supprimées. Une situation qui pourrait devenir critique. Les 8 salariés du musée maritime sont en effet au chômage partiel depuis la crise déclenchée le 13 mai. L'établissement a fermé ses portes durant un mois avec des moments d'intense inquiétude. Les précisions de Valérie Vattier, la directrice du musée.
Nous avons rouvert en mode dégradé, c'est-à-dire que au lieu d'ouvrir 6 jours par semaine comme on le faisait habituellement, nous sommes aujourd'hui à 3 jours d'ouverture par semaine, donc mercredi, vendredi et samedi. On a perdu évidemment les touristes, les croisiéristes, les scolaires, non pas parce qu'ils veulent pas venir, mais parce qu'il n'y a plus de transport en fait. Donc pour nous, c'est bien sûr des recettes en moins, c'est du dynamisme en moins. L'année dernière, on était autour de 1200 visiteurs par mois. Là, on est à une centaine quoi, à peu près. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué par rapport aux recettes qui sont censées arriver. Faut rappeler quand même que le musée est associatif, donc il vit de ses recettes, mais aussi des subventions. Donc c'est vrai que côté subvention, c'est très compliqué aussi, sachant que on a eu pour l'instant la subvention de la province sud qui avait été versée en mars. Et là, on vient tout juste d'avoir celle de la ville et de la mission aux affaires culturelles de l'État. Mais il nous manque encore la subvention du port et du gouvernement. Et si on n'a pas cette subvention, on sera obligé de mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Donc c'est quand même assez grave.
Le musée maritime qui accueille une nouvelle exposition temporaire intitulée L'Iphigénie, un premier convoi vers la Nouvelle-Calédonie. Elle est à voir au rez-de-chaussée du musée jusqu'au 19 octobre, les mercredis, vendredis et samedis de 9h à 16h. Il est 7h15, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer l'actualité nationale et internationale marquée par le début des consultations d'Emmanuel Macron en vue de la composition du futur gouvernement. On se retrouve après une page de pub.
rêvez d'espace de rangement supplémentaire, DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure, adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Informations, publicités, programmation, avis de décès, avis et communiqués, une seule adresse, rrb@rrb.nc.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
La suite d'Info Weekend d'Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité en métropole et tous les regards étaient tournés vers l'Élysée. Cette nuit, pour nous, se déroulaient les consultations organisées par Emmanuel Macron pour mettre fin à la crise politique et nommer un nouveau Premier ministre. Le président de la République a reçu Guillaume Lacroix, le président du Parti radical de gauche, le nouveau Front populaire, le camp présidentiel ainsi que la droite républicaine. L'occasion pour Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau de qualifier leur position. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, les Républicains ne participeront pas à une coalition, assure Laurent Wauquiez, qui souhaite garder sa totale indépendance. Mais le patron des députés de droite veut être utile pour le pays.
On est dans une situation de blocage et notre formation politique ne jouera pas la politique du pire. Nous n'avons pas l'intention d'être des opposants systématiques parce que le pays a besoin de continuer à avancer. Et donc, s'il y a des lois qui sont positives, évidemment qu'on sera capable de les soutenir.
En revanche, Laurent Wauquiez pose ses conditions. Son groupe déposera une motion de censure contre tout gouvernement composé de la France insoumise. Selon un participant, cette ligne rouge est partagée par l'ensemble du camp présidentiel reçu ce midi à l'Élysée.
Alexis de la Fontaine pour Europe 1. Le nouveau Front populaire a affiché une forme d'optimisme à l'issue de la rencontre avec Emmanuel Macron, se disant prêt à former une coalition. Mais c'est quand même loin d'être gagné pour Lucie Castel. Les précisions de Louis Dragnel sur le plateau d'Europe 1.
Quand on écoute Lucie Castet, on a l'impression que c'est presque déjà fait, mais en réalité, il y a au moins deux obstacles. Tout d'abord, Emmanuel Macron explique qu'il y a un point non négociable, c'est qu'il faut que le prochain ou la prochaine Premier ministre apporte une majorité stable, donc c'est-à-dire de plus ou moins une majorité absolue pour ne pas être renversé. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand on compte les forces du nouveau Front populaire, on est à 193 députés, très loin de la majorité absolue. Deuxième obstacle, eh bien, Emmanuel Macron a exclu de manière assez catégorique la possibilité d'avoir un ministre issu de la France insoumise, sauf qu'au sein du nouveau Front populaire, eh bien, il y a la France insoumise. La France insoumise était présente à travers la présence de Manuel Bompard tout à l'heure à l'Élysée. Or, pour Lucie Castet, ce n'est pas possible. Et elle voit, en fait, dans cette manœuvre d'Emmanuel Macron, une volonté, en réalité, de fracturer ce nouveau Front populaire. Donc, on le voit bien pour conclure, on reste dans l'impasse et on a beaucoup de mal à imaginer, en tout cas aujourd'hui, à ce stade, de quelle manière on va sortir de cette impasse, de quelle manière Emmanuel Macron va trouver une solution, notamment pour trouver une personne qui est capable d'apporter une majorité stable. Et donc, on a encore plus de mal à deviner qui sera le prochain Premier ministre.
Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, le président de la République qui a indiqué qu'il ferait ses choix à partir de mardi. La culture et les funérailles du dernier monstre sacré du cinéma français, Alain Delon, sera enterré samedi à Douchy. L'acteur, obsédé par sa propre disparition, avait tout préparé de sa dernière demeure à la couverture au livre au titre de Paris Match. Bernard Pasquito l'évoque dans sa biographie Alain Delon, une vie aux aguets, à paraître la semaine prochaine. On l'écoute.
Il va être enterré à Douchy. L'endroit est réservé, la chapelle, le lit qui s'était acheté avec ses premiers cachets, un lit de cuir noir. Et puis, de l'autre côté, à quelques mètres, se trouvent les trois chiens les plus aimés dans sa vie, qui sont enterrés là. Les autres, une cinquantaine, étant enterrés un peu plus loin dans le parc. Après, c'est vrai que depuis des années, Delon s'était réfugié dans le monde de ses morts, de Visconti, Romy Schneider, Mireille d'Arc, Nathalie Delon. Et donc, il avait une pièce d'ailleurs à Douchy, qui était un couloir de tous ces morts qui l'entouraient.
Un témoignage recueilli par Marie Jiquel pour Europe 1. Une prise d'otage dans une prison russe de la région de Volgograd a fait au moins 7 morts, les 4 assaillants et 3 employés pénitentiaires. Cette prise d'otage, qui a duré plusieurs heures, est la seconde dans une prison russe en 2 mois et semble, comme la précédente, porter la marque du groupe djihadiste État islamique. Les agresseurs avaient pris en otage 8 employés de la prison et 4 autres détenus et auraient infligé des coups de couteau de gravité variable à 4 employés. Au Venezuela, le bilan officiel des troubles survenus après l'élection présidentielle du 28 juillet dernier s'élève désormais à 27 morts, alors que la Cour suprême vient de valider la réélection du président Nicolas Maduro. Pour rappel, il avait été proclamé vainqueur avec 52% des voix par le Conseil national électoral, lequel n'avait cependant pas rendu public les procès-verbaux des bureaux de vote. De son côté, l'opposition estime que son candidat Edmundo González Urrutia a remporté le scrutin avec plus de 60% des voix. Et puis au Brésil, une centaine de pratiquants de paddle ont dû être secourus en mer après avoir été surpris par des vents violents sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Aucun blessé grave n'a été recensé. Il est 7h21, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de passer à nos programmes festifs et sportifs. A tout de suite.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite du journal avec vous Isabelle.
Les festivités du week-end reprennent de plus en plus au fil des semaines. L'occasion de se changer les idées avec notamment à partir d'aujourd'hui ou aujourd'hui un spectacle au Centre culturel du Mont d'Or, Sarah Mégerie.
Stoppée depuis le 13 mai, la saison culturelle reprend peu à peu. À 10h mais aussi à 16h, la compagnie Micmac présentera au Petit Théâtre de Boulary son spectacle Ronde des la Lune, un spectacle de marionnettes et de chant. Les réservations peuvent se faire sur le site internet du Centre culturel du Mont d'Or.
Cet après-midi à 16h, le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie propose un concert de musique classique.
Un concert en deux parties dirigé par Vincent Adrania, intitulé Piano, cordes et chaussons, qui se déroulera à 16h. L'occasion de découvrir l'univers de Chausson, un compositeur de la seconde moitié du 19e siècle. Écoutez Vincent Adrania.
Je voulais qu'on présente chaque entité du concert de Chausson, c'est-à-dire une petite pièce pour piano de Gabriel Fauré, une petite pièce pour violon de Bach et une pièce pour quatuor à cordes de Schubert. Ça permet un petit peu de présenter les différents musiciens qui sont au violon Roland Arnassalon. Et le quatuor à cordes sera un quatuor féminin composé de Tania Gouch, de Marine Tolo, d'Amandine Marican et de Laurence Twikalepa. Au piano, ce sera moi-même. Et donc, on va jouer un petit peu ces petites pièces dans la première partie. En fait, après, en deuxième partie, on va tous se retrouver pour jouer ce magnifique concert de chaussons.
Vincent Adrania qui anime l'heure classique tous les samedis à partir de 13h sur RRB. Et notez que pour le concert, les réservations se font sur itiquette.nc.
Et puis demain, direction la Reine du Sud de Païta qui accueille de nouveau la braderie de 9h à 13h.
Les Calédoniens pourront profiter de nombreux articles à bon prix et d'un mini-marché sur place avec une nouveauté, une scène ouverte où chanteurs, comédiens ou poètes pourront performer.
Vous pourrez également faire des achats pour soutenir la cause animale en vous rendant à la brocante de la Spanque à Coutio demain matin.
De 7h à 11h, les bénévoles de la Spanque seront présents pour accueillir les visiteurs, à retrouver sur place de la vaisselle, des vêtements, des livres, des jouets, mais aussi des plantes.
Et notez enfin qu'aujourd'hui marque le début des soldes de la saison fraîche. Les Calédoniens pourront profiter des bonnes affaires jusqu'au dimanche 22 septembre. On passe au sport et à la une du football. On dispute ce week-end la deuxième journée du championnat de France et c'est le PSG qui ouvre le bal, Michael Juniski.
Oui, avec un match PSG-Montpellier, les Parisiens qui disputent leur première rencontre à domicile pour ce début du championnat de France. Et c'est un festival. Les Parisiens qui ont l'avantage 5-0 après 71 minutes de jeu. Déjà un doublé de Barcola, trois autres réalisations signées Asensio, Hakimi, Zahir Emery. Encore une quinzaine de minutes à jouer au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui devrait prendre aujourd'hui logiquement les commandes provisoirement du classement. Dès ce soir, l'Olympique Lyonnais retrouvera l'AS Monaco, puis à 4h, Lille sera opposée à Angers. Les Angevins savent qu'ils ont peu de moyens pour rivaliser avec les grandes équipes de Ligue 1 cette saison, mais l'entraîneur d'Angers, toujours en quête de joueurs dans le mercato, ne désespère pas. On écoute Alexandre Dujeu.
On n'est pas fou, on est le SCO, mais on est en Ligue 1, on sort d'une belle saison et je pense qu'on est aussi attractif. Alors forcément, il y a la possibilité d'attirer des joueurs avec un très bon niveau. Donc il y a tout un tas de bons joueurs et qui peuvent être libres ou qui peuvent être libérés sous forme de prêt, par exemple, par les plus gros clubs.
Lille-Angers à suivre à partir de 4h demain matin, puis à 6h ce dimanche, l'AS Saint-Étienne recevra le Havre.
On passe au cyclisme avec la 7e étape du Tour d'Espagne.
Et la victoire est revenue à Wout van Aert, le Belge qui s'est imposé au sprint devant Mathias Vacek et l'Espagnol Pau Miquel. Le meilleur Français Quentin Pacher a terminé à la 6e place. Au classement général, c'est l'Australien Ben O'Connor de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale qui est leader. Un écart de 4 minutes 45 secondes devant le Slovène Primoz Roglic.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les sports mécaniques, la F1 avec le Grand Prix des Pays-Bas qui se dispute ce week-end.
Oui, la reprise pour la Formule 1. Le Britannique George Russell a déjà signé le meilleur temps des essais libres. Le pilote Mercedes a devancé Oscar Piastri sur McLaren et son coéquipier Lewis Hamilton. Max Verstappen sur ses terres en Hollande n'est arrivé qu'en 5e position après les premiers tours de piste. D'ailleurs, à 26 ans, le Néerlandais disputera déjà son 200e Grand Prix en carrière. Pourtant, quand on lui demande s'il sera encore de la partie dans 200 Grands Prix à l'avenir, Max Verstappen coupe court. Il ne se voit pas prolonger si loin dans le monde de la F1.
On a dépassé la moitié, c'est certain. C'est déjà une aventure incroyable. On ne dirait pas que cela fait 200 courses, mais on fait beaucoup de courses dans une saison. Cela s'additionne vite.
Max Verstappen, le tenant du titre mondial. Côté français, Pierre Gasly sur Alpine s'est classé 14e des essais libres. Esteban Ocon termine quant à lui à la 17e place. Les qualifications à suivre ce soir. La course demain soir, départ à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et pour finir, on évoque l'actualité sportive côté calédonien.
Avec du tennis au receiving, on joue ce week-end les phases finales du tournoi Open du club. Chez les messieurs, la finale aura lieu ce dimanche à 15h. Toujours au receiving, le club organise également son tournoi P25 messieurs de padel. 16 équipes sont engagées. De l'équitation également ce week-end, le Yala Ranch qui accueille ce dimanche le CSO fédéral, premier concours de saut d'obstacles depuis le début de la crise. Au programme des épreuves préparatoires, des épreuves amateurs. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire directement sur place. C'est également ouvert au grand public. À suivre encore de la voile, la 4e étape du challenge croiseur Sirius Solar NC du cercle nautique calédonien. Et puis hors du territoire, il y a notamment de la natation. On rappelle que des Calédoniens sont en Nouvelle-Zélande pour le championnat Open. La compétition a démarré mardi dernier avec notamment 8 jeunes nageurs du CNC et de Dimbéa.
Merci Mickaël, il est 7h29. On va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'était avec vous Bruno.
Oui Isabelle, et comme le PSG, le soleil domine largement sur le nord-est, la pointe sud, l'île des Pins et les Loyautés. Quelques nuages circulent tout de même. Et une ondée n'est pas exclue sur le nord-est. Sur l'ouest, le vent est faible, mais va se renforcer autour de 10 nœuds de sud-sud-est cet après-midi. Ailleurs, il est d'est-sud-est, souvent compris entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi, le temps très ensoleillé va se maintenir sur l'ouest. Ailleurs, quelques nuages seront présents, surtout en fin de journée, et pourront donner une ondée sur la pointe nord-est et la pointe sud. Côté température, enfin, elles sont légèrement en baisse, avec 23 à 26 degrés Allez, 27 à 28 degrés sur l'ouest. Ça sent le bon week-end.
Merci beaucoup, Bruno. Le soleil domine comme le PSG. Il fallait l'oser quand même. Bravo.
Oui, mais c'est vrai.
Merci encore. Il est 7h30. C'est la fin de ce journal.